Le 6-9 du week-end. Pierre Veille sur France Inter.
Raphaël Baquet, bonjour.
Bonjour.
Ariane Chemin, bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez, Raphaël Baquet et Ariane Chemin, La communauté chez Albin Michel, un reportage dans une commune de la banlieue parisienne, Trappes. C'est la ville de Jamel Debbouze, Sofia Aram, Nicolas Anelka, Omar Sy, le rappeur Lafouine qu'on vient d'entendre. Ils ont réussi. Ils ont fait leur chemin, c'est une belle réalité de Trappes, vous la racontez. Et puis il y a votre description des changements souvent inquiétants de cette commune au fil des années. Et ce livre sur près de 320 pages, finalement, c'est une histoire d'une commune de banlieue. C'est un peu l'histoire des transformations de notre société française ces 50 dernières années, Ariane Chemin.
Oui, c'est en fait un petit creuset, comme un précipité de l'histoire de France, dans une ville pas si grande, 32 000 habitants, mais qui a tout connu. À la fois le communisme municipal, jusqu'à très tard, jusqu'en 2001, et puis aussi toutes les transformations de la société française. Alors l'immigration, évidemment, parce qu'on est tout proche d'usine automobile, et puis le regroupement familial, et puis après la drogue, et puis après l'arrivée de la religion.
C'est une commune, Trappes, dans laquelle on a installé des gens pauvres et puis tous ces immigrés dont on a eu tant besoin dans les années 60-70, c'était le territoire des HLM, Raphaël Baquet.
En fait, elle va connaître ce qu'ont connu d'autres banlieues autour de Lille, de Lyon, de Montpellier, hein, c'est-à-dire effectivement l'afflux d'une population que les recruteurs des usines automobiles, en l'occurrence, vont chercher en Algérie ou au Maroc. Alors le gros de l'immigration qui arrive à Trappes vient de la région d'Oujda. Et effectivement, on construit ces cités HLM qui vont défigurer une partie de la France, il faut bien le dire, dans les années 60 et 70 pour les loger. Et à Trappes, ces cités sont particulières, justement, elle s'appelle pas cité. Les communistes les ont appelés les squares, comme une espèce de reste d'idéal et d'utopie dans les grands ensembles. Mais ces squares vont avoir une importance parce que c'est aussi ce qui va provoquer une forme de repli d'entre-soi, puisqu'ils se sont construits des grands immeubles autour des jeux d'enfants. Et plus tard, quand les jeunes gens partiront au djihad, c'est parfois par square entier qu'ils vont partir.
Alors dans ce livre, vous racontez que dans un premier temps, ce sont les communistes hein, qui ont pris en charge Trappes, et puis ils ont été supplantés par les islamistes. Comment ça s'est fait, cette...
C'est pas mécanique et c'est pas programmé. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît le rôle qu'a pu avoir le Parti communiste dans les années 60 à 90. C'est-à-dire qu'on accompagne une famille ou quelqu'un de la naissance au cercueil. Il y avait une supérette pour les cheminots communistes à Trappes. Et puis, on partait en colonie de vacances avec le parti. On allait faire de la musique au conservatoire qui était organisé par la mairie rouge. Et puis, le club de foot aussi était un club de foot communiste. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les gloires que vous avez citées, auxquelles on pourrait rajouter Chaim, Calardo, Issadou, et bien en fait ce sont des réussites du communisme municipal et on l'a pas forcément en tête quand on les voit tous et en fait c'est grâce au parti qu'ils ont réussi au départ.
Et puis dans le livre donc vous racontez comment ces hommes à longue barbe et djellaba ont su s'imposer tout doucement, tranquillement au pied des immeubles,
en
Raphaël Baquet.
Ils arrivent sur un terreau particulier, hein, dans les années 90, quand la drogue ravage les banlieues. Et vraiment, à Trappes, c'est vraiment une véritable catastrophe. C'est-à-dire que l'héroïne est arrivée, avec elle le sida, hein, puisque évidemment, dans les caves, on partage la même seringue. Et c'est aussi dans cette atmosphère désolante et de mort qu'arrivent les premiers tablirs. Les tablirs, ce sont des musulmans pacifistes qui viennent de la région indo-pakistanaise et qui arrivent effectivement des prédicateurs et qui vont convaincre peu à peu les jeunes gens de sortir des caves et de sortir de la drogue pour reprendre le chemin de la mosquée. Ils leur disent viens, on a préparé des jus de fruits, des chips, tu vas voir comme juste faire ta prière, ça ne te prend que quelques minutes par jour. Et effectivement les parents au fond les voient avec soulagement, car mieux vaut aller à la mosquée que de se droguer seul dans le hall d'immeuble.
Et puis aussi le travail ensuite d'islamistes beaucoup plus durs, hein, les frères musulmans, les salafistes, Ariane Chemin.
En fait, il y a tout à Trappes. Dans certaines villes de banlieue, on a par exemple des anciens du GIA qui viennent d'Algérie au milieu des années 90. À Trappes, ils sont là, ils sont très importants, ils s'implantent dans la ville. Et puis ensuite, après l'établir, effectivement, deux frères musulmans, deux ingénieurs qui comprennent qu'au fond, la politique, il ne faut pas forcément la faire dans les urnes, mais il faut se servir de la communauté musulmane comme d'un levier. Et ils imposent, par exemple, la construction d'une mosquée, parce qu'il n'y avait pas de mosquée à Trappes. Il y avait une enfilade d'appartements. Les vieux Algériens marocains qui venaient du pays prier dehors, et évidemment, il y avait un problème. Mais ça, ils se disent, nous qui sommes cultivés, contrairement aux premiers arrivants qui, souvent, ne parlent pas bien le français à la mosquée, ne savent pas lire, etc., ils arrivent et ils font de la politique comme ça, et ils arrivent à imposer au maire, qui se fait élire de cette manière, la construction d'une mosquée.
Vous racontez l'histoire de Trappes, mais je voudrais qu'on parle de Trappes aujourd'hui. Certains politiques dénoncent le communautarisme. Est-ce que votre livre, c'est une description précise des dégâts du communautarisme ? Raphaël Baquet.
Ce qu'on a voulu raconter, c'est plutôt l'enfermement, si vous voulez, d'une société. Bah, c'est au fond le résultat de la construction de nos ghettos, hein, en France. Oui. Et on voit bien que cette ville qui n'est pas du tout comme on l'imagine, c'est-à-dire qu'elle a bénéficié de la rénovation urbaine et toutes ces cités et ces tours que je vous ai décrits au tout début n'existent plus. Hein. 340 millions d'euros ont été consacrés à la rénovation urbaine et c'est plutôt une ville assez agréable. C'est très réussi, si vous voulez, comme rénovation.
Mais en même
mais
temps,
rien n'a changé.
Il y a cette influence
voilà,
des
rien
islamistes.
Rien n'a changé, c'est-à-dire qu'il y a un repli sur soi de la société,
avec
une influence religieuse croissante qui fait que, effectivement, y compris pour les femmes, et peut-être même surtout pour les femmes, il y a une forme de pression qui s'exerce.
Ah ben, vous le racontez dans le livre, hein, des cafés interdits aux femmes à Trappes.
Pas interdits. C'est plus subtil que ça.
Allez-y, expliquez-moi.
C'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un grand café où les femmes ne sont pas interdites. Nous y sommes allés très souvent et nous avons d'ailleurs été très bien accueillis.
Oui.
Simplement, chaque fois que nous avons voulu proposer à nos interlocutrices maghrébines, donc supposées être musulmanes, de venir nous rejoindre au café, chaque fois elles nous ont dit non. Parce que...
Oui, c'est un interdit pression... indirect.
Voilà.
C'est une pression indicible, au fond. Oui. Et je crois qu'il faut y passer du temps pour le comprendre. Mmh. C'est vraiment quand vous demandez à quelqu'un, parce qu'au bout d'un moment, on a passé un an là-bas, donc on s'est fait des copines. Oui. On disait si on allait au café de Trappes. Et c'est parce que elle, qui avait, au fond, la tête de quelqu'un qui pourrait pratiquer la religion musulmane, on leur a dit, elles nous ont dit, bah, écoute, non, parce que là, c'est Ramadan, on ne peut pas y aller. Oui. Toi, on va te servir un café. Et pas moi.
Oui, c'est un interdit insidieux, mais c'est quand même insupportable. Vous parlez aussi.
C'est une pression insupportable, on est très net.
Vous parlez aussi de l'exigence de tenue décente pour les femmes, sinon on subit des réflexions. Et puis une émeute à Trappes à la suite d'un contrôle d'une femme entièrement voilée, ce qui est interdit par la loi.
Oui, alors c'est intéressant parce que cette émeute, elle a fait l'objet de 1000 dissertations parce qu'on s'est dit, est-ce que ce n'est pas la première émeute communautaire en France? Il y a eu la même chose à Molenbeek. Curieusement, en Belgique. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Une femme a été contrôlée par des policiers et toute la mosquée est descendue vers le commissariat. Ça a été extrêmement violent, la police était mobilisée et on n'avait jamais vu ce genre de rassemblement religieux, au fond. Hein. Et c'est vrai que c'est l'intérêt de cette ville de Trappes. Tout s'y passe de manière exponentielle. Il y a tout. Toutes les formes d'islam, toutes les formes de révolte, toutes les formes de... Effectivement, c'est un précipité, un condensé comme une sorte de laboratoire.
En tout cas, c'est une commune en France qui a ses codes très particuliers. Raphaël Baquet.
Oui, une partie de ses habitants ont ces codes très particuliers. Hein, c'est ça qui frappe, si vous voulez. Et d'ailleurs, la ville est presque coupée en deux. Si vous allez dans le vieux Trappes, la rue Jean Jaurès, tout près de la gare, vous ne verrez pas du tout ce que nous venons de décrire, si vous voulez. Donc, il y a, au fond, plusieurs communautés qui coexistent et une communauté très visible, en tout cas la communauté musulmane, dont on voit effectivement qu'elle peut exercer sur certains de ses habitants une forme de pression.
Et que répondez-vous à ceux qui disent que vous racontez un Molenbeek français ? Je rappelle, Molenbeek, c'est cette commune de Belgique où l'islam est omniprésent et d'où venaient de très nombreux terroristes qui ont frappé la France et la Belgique.
Eh bien, les gens racontent ça parce qu'effectivement, Trappes détient le report européen de départ au djihad. Il y en a 67, c'est beaucoup pour une ville de 30 000 habitants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ça ne s'est pas manifesté de manière immédiatement visible. On a eu énormément de mal, on a passé un an à trouver ce chiffre de 67, parce qu'il y a un tabou et un déni de la part des politiques, évidemment, parce que c'est jamais très glorieux, mais aussi de la part des familles, parce qu'il y a un sentiment de gêne, de honte. Et ce qui nous a intéressé d'ailleurs, c'est de voir que souvent les habitants de Trappes étaient au courant, bien avant les policiers qui cherchaient partout qui était parti, si un tel était mort, si un tel était revenu, et bien... Les habitants de Trappes le savent, soit parce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ils sont informés, soit parce qu'on voyait un gamin pleurer dans la cour de récré, soit parce qu'on décelait une prière mortuaire tel jour, à telle heure, alors que rien n'était indiqué sur l'agenda de la mosquée. Et c'est comme ça, souvent, que les habitants et les policiers s'informaient.
Une partie de la société vit avec cet ailleurs, en Syrie. Oui. C'est ça qui est très frappant. Et effectivement, est au courant de ce qui se passe en Syrie, bien mieux que les services de renseignement français.
On a encore plein de questions à vous poser, Ariane Chemin, Raphaël Baquet, avec Patricia Martin. Et puis le standard, 01 45 24 7000 interactive. Juste un mot, on emploie souvent l'expression dans la classe politique des territoires perdus de la République. C'est le cas de Trappes, selon vous?
C'est pas un mot qu'on employait. D'abord, on s'est gardé de tout, de formule à la fois. Politique, morale...
Mais vous avez passé un an là-bas, vous avez interrogé...
Non, parce qu'il y a des gens qui sauvent Trappes, il y a des gens qui sont très importants, il y a des associatifs qui travaillent nuit et jour, et la ville tient grâce à eux. Mm-hmm. Il y a à la fois...
Des profs,
évidemment, qui sont un peu les héros de notre livre, le curé est un héros de notre livre, il y a aussi la mosquée qui fait des choses, qui distribue des soupes populaires... Donc la ville, elle tient grâce à ça, et effectivement, c'est pour ça qu'on est aussi un peu inquiète, parce que quand on supprime par exemple un emploi aidé, qui empêche par exemple le curé ou le président du club de foot de faire du soutien scolaire, c'est grave.
On se retrouve dans quelques minutes. Ariane Chemin, Raphaël Baquet, un conseil, quelques conseils et puis la revue de presse.